Excellente soirée à toutes et à tous.
Merci beaucoup Sylvie Poffet, retour de l'info à 20h.
19h-20h, place publique sur Arabelle.
Bonsoir à toutes et à tous, Nicolas de Wallens avec vous, heureux de vous retrouver. Soyez les bienvenus dans Place Publique. Chaque mercredi entre 19h et 20h, nous nous intéressons aux grandes questions politiques et sociétales. Dans 11 jours, nous votons. Destination élections ce soir dans Place Publique. Nous nous intéressons aux élections fédérales avec Didier Gozouin, 9e suppléant sur la liste des filles à la Chambre. Bonsoir.
Bonsoir.
Audrey Henry, 2e suppléante sur la liste MR à la Chambre. Bonsoir.
Bonsoir.
Quentin Libot, 7e suppléant sur la liste PS à la Chambre. Bonsoir.
Bonsoir.
Gilles Vandenburg, 2e sur la liste Écolo à la Chambre. Bonsoir.
Bonsoir.
Ismaël Nouigno, 1er suppléant sur la liste Les Engagés à la Chambre. Bonsoir.
Bonsoir.
Bienvenue. J'ajoute que le PTB n'a pas souhaité répondre favorablement à cette sollicitation. Soyez toutes et tous les bienvenus. Place publique commence maintenant.
Jusqu'à 20h, place publique sur Arabelle.
Le pouvoir d'achat figure parmi les préoccupations essentielles des Belges. Quelles sont les mesures pour améliorer le pouvoir d'achat proposées par Défi, Didier Gozouin?
D'abord, parler que le pouvoir d'achat n'a pas été bien traité pour les déciles de revenus les plus faibles durant cette législature. Pour moi qui le dis, c'est l'Université de Gand qui a publié d'ailleurs le 16 mai dans le soir. Le pouvoir d'achat passera par une réforme fiscale promise, inscrite dans la déclaration, mais non réalisée. Réforme fiscale qui doit, bien entendu, supprimer toutes sortes d'exceptions, de niches, etc. Enfin, qui rend le truc complètement illisible et incompréhensible, qui favorise d'ailleurs ceux qui peuvent maîtriser les outils fiscaux, et doit, avec l'objectif, évidemment, d'encourager, en tout cas, ceux qui sont à faible revenu pour augmenter leur pouvoir d'achat, parce que c'est eux qui sont malmenés aujourd'hui dans la situation économique que nous connaissons. Même s'il y a eu des interventions sous cette législature, lorsqu'il y a eu des crises du Covid ou de l'énergie, il n'en reste pas moins que le premier décile de revenu, donc maximum 22 700 euros annuels net, a vu son pouvoir d'achat diminuer de 1,4% de 2020 à 2024. Et ce sont des chiffres qui sont incontestables. Par contre, les plus hauts revenus, au-delà de 110 000, ont vu une progression de 1,8%. Donc il y a un rééquilibre à faire si on ne veut pas voir croître les inégalités, ce qui est hélas une réalité encore aujourd'hui.
Quentin Libot, vous êtes 7e suppléant sur la liste PS à la Chambre. Quelles sont les propositions du PS pour soutenir le pouvoir d'achat des Belges ?
Donc en fait, le pouvoir d'achat, il faut savoir que c'est vraiment la priorité numéro 1 du Parti Socialiste. C'est ce qu'on entend sur le terrain, c'est malgré la crise, on a du mal, de plus en plus de mal à boucler nos fins de mois. Et donc évidemment, nous on veut soutenir les gens, notamment les bas et les moyens salaires. Deux mesures phares. La première, c'est d'augmenter le salaire minimum à 2800 euros brut par mois à l'horizon 2030, donc ça ne va pas se faire en un jour, ça ne va pas se faire en un coup. Cette mesure, elle ne vient pas n'importe où, hein, ça vient d'une directive européenne qui a été votée en 2022 et qui préconise de ramener le salaire minimum à 60% du salaire médian dans chaque État membre. Et donc, quand on fait les calculs, quand on regarde les indexations avec le salaire minimum qui existe maintenant et qui a été revalorisé sous cette législature, je tiens à le rappeler, donc le pouvoir d'achat n'a pas été si malmené que ça. On a fait une revalorisation historique du salaire minimum. Quand on regarde une indexation par an, d'ici à l'horizon 2030, ça nous donnerait un salaire brut médian de 2800 euros par mois. Donc, on ne vit pas totalement sur la lune, c'est pas déconnecté, c'est une proposition concrète. Et une deuxième proposition concrète, c'est de revaloriser les bas et les moyens salaires de 300 euros net par mois via une réforme fiscale.
Pas déconnecté, mais ça veut dire que les Belges devront attendre 2030 pour avoir plus de pouvoir d'achat ?
Non, comme je dis, on ne va pas faire tout d'un coup, on ne va pas attendre 2030 et dire maintenant 2030, on augmente à 2800 euros net, brut, pardon. Ce sera une augmentation progressive et donc on a déjà commencé à le faire sous cette législature, à augmenter, le salaire minimum n'avait pas été augmenté depuis des années, on l'a fait sous cette législature et donc on veut continuer à le faire progressivement et pour atteindre l'horizon 2030, c'est 2800 euros.
Ismaël Nouigno, vous êtes 1er suppléant sur la liste Les Engagés à la Chambre. Quelles sont les propositions des engagés pour augmenter le pouvoir d'achat des Belges ?
Alors le constat d'abord, et puis je passerai directement à des propositions très concrètes, comme l'a dit M. Gozouin, tous les partis ici autour de la table vont dire qu'il faut une réforme fiscale. Je pense qu'il faut s'entendre sur le fait que le grand échec de ces gouvernements, PS, MR, Écolo, c'est de ne pas avoir réussi à faire de réforme fiscale. C'était promis, il n'y a rien eu, et donc je pense que c'est une preuve de plus que la droite et la gauche mises ensemble dans un gouvernement, ça ne fait pas du centre, ça ne fait rien. Et donc il faut absolument, à partir de 2024, qu'on travaille fortement et sérieusement à une vraie réforme fiscale. Chez les engagés, on a présenté il y a plus de 2 ans maintenant, donc on ne vient pas juste pour les élections avec ça, un plan fiscalité-emploi qui a été validé par des experts, et je vais vous en choisir 2 extraits parce qu'il est très très long et je vous invite à aller le découvrir si ça vous intéresse. La première, et la logique qui suit tout ce plan, c'est de dire on doit moins taxer le travail. Les gens qui travaillent, qui se lèvent pour bosser, il faut les encourager, il faut les soutenir. Il faut un plus grand différentiel entre l'inactivité et l'activité. Pour ça, une proposition, c'est le bonus bosseur. C'est avoir 450 euros sur les plus bas salaires qui vont diminuer progressivement plus votre salaire augmente, de plus dans la poche. Ça permet donc d'avoir un différentiel entre l'inactivité et le travail qui est plus important. Et une deuxième proposition qui me tient moi particulièrement à cœur, c'est d'exonérer les 100 000 premiers euros gagnés par un jeune dans sa carrière. Donc on ne taxera pas les 100 000 premiers euros qu'on gagne dans une carrière. Ça permet, parce qu'en fait c'est à ce moment-là qu'on a le plus besoin d'argent. En général, on a beaucoup plus d'argent vers 50 ans, quand les enfants ont fini, quand ils ont fait leur carrière, qu'ils ont fini leurs études. Ce dont on a besoin, c'est d'avoir de l'argent quand on commence dans la vie active, qu'on doit s'acheter un appartement, lancer une entreprise, fonder un foyer. Et donc voilà 2 propositions, on en a beaucoup d'autres, parce que ça ne se résumera pas à quelques propositions plic-ploc, mais à un vrai plan transversal et au fait d'être capable de travailler ensemble et pas de s'arrêter sur quelques désaccords.
Audrey Henry, 2e suppléante sur les listes MR à la Chambre, ça vous parle évidemment de taxer moins le travail ?
Oui, effectivement, parce que donc pour nous, l'emploi est effectivement la meilleure politique sociale. Et travailler doit toujours apporter plus que d'être inactif. Le travail doit être récompensé. Et donc, effectivement, nous propose une différence de 500 euros entre les revenus d'un actif par rapport à quelqu'un qui est inactif. Les 3 mesures donc concrètes, ça c'était la première. La deuxième, c'est un bouclier fiscal de 50%, parce qu'effectivement, en Belgique, nous trouvons qu'il n'est pas normal de, à un moment, reverser plus de 50% de ce qu'on gagne effectivement à l'État. Et la troisième mesure, c'est effectivement de ne pas payer d'impôts en dessous du montant qui est égal à celui du revenu d'intégration sociale, puisque donc pour l'instant, un inactif ne va pas payer d'impôts sur cette somme, alors que quelqu'un qui travaille, et donc particulièrement les bas salaires, vont quant à eux payer des impôts. Donc effectivement, on voudrait relever ce qu'on appelle la quotité exemptée d'impôts. Et alors, un mot sur la réforme fiscale. Effectivement, on est tous d'accord sur le fait qu'il faille une réforme fiscale. Nous ne sommes pas parvenus dans ce gouvernement à un accord parce que ce n'était pas... c'était une réforme fiscale qui considérait en tax shift et pas en tax cut. Donc, elle n'allégeait pas du tout la pression fiscale. En fait, elle reprenait d'une main ce qu'on donnait de l'autre. On augmentait la TVA sur certains produits de consommation. Ça reposait par aucun... Le financement ne reposait sur aucune mesure d'activation au niveau de l'emploi, mais uniquement justement sur ceux qui faisaient de nouveau tourner l'économie. Et donc c'est pour ça que ça ne nous semblait pas la voie à suivre.
Gilles Vandenburg, 2e sur la liste écolo à la Chambre, n'est pas du tout d'accord avec ce que vous dites.
Mais rebonsoir. Non, mais je vais répondre à votre question. Mais d'abord, je voulais quand même souligner ce qui a été fait par ce gouvernement, parce que j'entends beaucoup de choses. La première chose, c'est qu'on a quand même relevé, de manière d'ailleurs assez inédite, puisqu'on ne l'avait plus fait depuis une dizaine d'années, le salaire minimum. Donc ça concerne quand même beaucoup de travailleurs et de travailleuses dans ce pays. On a relevé aussi les pensions minimum pour employés comme pour indépendants, et aussi les allocations pour les allocataires sociaux. Je pense qu'en termes de pouvoir d'achat, de pouvoir de vivre dignement, c'est vraiment fondamental. Oui, nous aurions aussi souhaité faire une réforme fiscale, nous écologistes, clairement, pour baisser la fiscalité sur le travail, en priorité pour les bas et moyens salaires. Pour nous, c'est vraiment important d'aller jusque, en tout cas, que cela concerne à minima 60% des personnes qui travaillent dans ce pays, employés comme indépendants. Sous ce gouvernement, on n'a pas pu réussir à le faire. Alors, le MR n'a pas voulu, effectivement. Il y avait 6 partis qui étaient d'accord pour le faire. Le MR a bloqué. Mais, mais il n'y avait pas sur la table le fait d'augmenter la TVA. Là, je voulais quand même rectifier des choses qui ne sont pas correctes. Le MR n'a pas souhaité baisser la fiscalité sur le travail. C'est sa responsabilité. Mais je ne veux pas qu'on dise ici des choses qui ne sont pas correctes. Nous-mêmes n'acceptons absolument pas qu'on augmente la TVA sur des biens de première nécessité. Et donc, il y avait d'autres types de financement possibles, parce qu'il fallait la financer, c'est vrai, mais pas ce type-là. Et donc, ce que nous proposons, oui, c'est une priorité, une réforme fiscale, jusqu'à 300 euros net par mois en plus pour le salaire minimum, et alors de manière dégressive, comme je le disais, jusqu'à ce qu'on appelle un salaire médian autour de 4 500 euros brut par mois. indépendant comme employé, c'est très important parce que dans notre mécanisme, on veut évidemment encourager les deux types, enfin les deux statuts, quel que soit finalement le statut d'un travailleur, d'une travailleuse, c'est vraiment fondamental. Ça pour nous, c'est vraiment une priorité et je pense qu'on, effectivement, tous les partis aujourd'hui en campagne disent qu'il faut le faire, mais il faudra voir comment la faire et comment la financer aussi. On a aussi des pistes, on pourra en rediscuter.
Place publique, c'est jusqu'à 20h sur Arabelle. Si vous venez de nous rejoindre, c'est le grand débat pour le fédéral ce soir. Je lis vos SMS au 0488 106 800. On se retrouve juste après Angèle. Démon, c'était Angèle.
Jusqu'à 20h, place publique sur Arabelle.
Dans 11 jours, nous votons, nous nous intéressons ce soir aux élections fédérales avec Quentin Libot, PS, Gilles Vandenbure, écolo, Didier Gozouin, Défi, Ismaël Nouigno, Les Engagés et Audrey Henry, MR. Intéressons-nous maintenant au taux d'emploi des Belges, un taux d'emploi que j'imagine chaque parti voudrait augmenter. C'est notamment votre cas, Audrey Henry.
Oui, évidemment, nous avons toujours pour objectif d'atteindre 80% de taux d'emploi pour la simple et bonne raison qu'effectivement, un inactif qui retourne à l'emploi, c'est 28 000 euros dans les caisses de l'État. Et donc, si on prend les 300 000 chômeurs et les 500 000 malades de longue durée, voilà, les comptes sont vite faits si on en remettait limite qu'un quart au travail. Donc, nous, pour une réactivation effectivement des chômeurs ou malades de longue durée, on a plusieurs mesures. La première, ce serait effectivement un accompagnement plus rapide et plus efficace des demandeurs d'emploi, parce qu'il faut savoir que souvent maintenant, il s'écoule plus ou moins 9 mois avant un premier rendez-vous. S'il se passe bien, et de nouveau un délai de 5 mois, donc on en est déjà à plus d'un an avant effectivement un vrai accompagnement des demandeurs d'emploi. On voudrait aussi proposer un incitant financier pour les personnes qui acceptent un poste dans les métiers en pénurie, puisque effectivement en Belgique, il y en a quand même près de 200 000 emplois à pourvoir. Et aussi, effectivement, une révision de la durée des modalités des allocations de chômage. Donc, pour nous, les allocations de chômage devraient être limitées à 2 ans, parce que la solidarité, pour nous, c'est des droits et des devoirs. Alors, dans un premier temps, les 6 premiers mois, ces allocations devraient être plus hautes, parce que la perte d'un emploi, et ça peut arriver, effectivement, peut être un véritable choc financier. Donc, à ce moment-là, on pense que les gens doivent être, effectivement, moins pénalisés dans le début. Mais, effectivement, sur les 270 000 demandeurs d'emploi en Belgique actuellement, il y en a 130 000 qui le sont depuis plus de 2 ans. Et donc, effectivement, on pense qu'après ces 2 ans, si on a refusé 2 fois des emplois convenables et des formations, à ce moment-là, il doit y avoir une sanction. Mais on ne laisse pas non plus ces gens complètement à l'abandon. C'est juste que pour nous, il faut que ce soit les CPS qui, à ce moment-là, proposent un suivi beaucoup plus personnalisé avec un suivi beaucoup plus personnalisé, tandis que les organismes régionaux, eux, se concentrent sur les gens qui sont plus proches du marché du travail et plus facilement remis au travail.
C'est au CPS maintenant à accompagner les demandeurs d'emploi ?
Mais ça existe quand même déjà actuellement. Ils ont effectivement plus d'outils pour avoir des mesures de réinsertion socio-professionnelle plus adaptées. Et effectivement, ça va avec plus de moyens qui leur sont alloués à ce moment-là.
Quentin Libot, PS, vous êtes d'accord avec ce que vous entendez ?
Non, absolument pas. Alors, le taux de 80% de taux d'emploi, d'accord, mais il faut voir aussi quels emplois. Si des emplois précaires, mal rémunérés, ça n'intéressera personne. Donc, il faut que les emplois soient de qualité, il faut que les emplois soient correctement rémunérés. On en a parlé juste avant. Alors, on parle de réactivation, on parle d'accompagnement. Oui, mais alors les sanctions, ça ne marche pas. Les études le montrent et le démontrent. Alors je ne comprends pas l'obstination du MR de dire « il faut sanctionner, il faut sanctionner, il faut sanctionner ». Non, ce n'est pas comme ça qu'on va amener les gens vers l'emploi. Ça ne fonctionne pas. Les études le démontrent. Et donc en fait, qu'est-ce qui va se passer après 2 ans ? On va laisser les gens… Alors c'est pas au CPS à accompagner. Le CPS, c'est le dernier filet de sécurité sociale. Ce n'est pas le travail du CPS. Oui, si les gens sont au CPS, ils doivent être, les personnes qui sont au CPS doivent être accompagnées. Effectivement, mais là n'est pas la question. En faisant la mesure où on va exclure les gens du chômage après 2 ans, on va augmenter les tensions qui sont sur les CPS et qui sont déjà en tension maintenant. Et donc ces gens ne pourront pas avoir bénéficié d'un réel accompagnement qui soit de qualité. On doit accompagner les chômeurs, certainement. On doit aussi améliorer le bien-être au travail, mais sanctionner, ça ne fonctionnera pas.
Mais donc comment est-ce qu'on les incite, ces chômeurs, à retrouver le chemin du marché du travail ?
Mais alors déjà, il faut augmenter la qualité du bien-être au travail. C'est absolument primordial. Quand on voit que maintenant, il y a plus de personnes qui sont absentes du marché du travail pour des raisons de santé, au-delà des raisons de chômage, c'est qu'il y a déjà un problème à la base. Donc déjà, première chose, pour éviter que les personnes ne sortent du marché du travail, il faut qu'elles y restent. Et pour qu'elles y restent, il faut augmenter le bien-être au travail. Et ça passe par toute une série de mesures qui doivent être concertées, qui doivent être collectives, avec les employés, avec les employeurs. Mais c'est un élément fondamental.
Audrey Henry, une réaction ?
Oui, je voulais quand même juste réagir parce qu'effectivement, on dit que ça ne marche pas, mais n'empêche que la Belgique est un des seuls pays de l'OCDE à avoir des allocations de chômage illimitées dans le temps. Et pour nous, les allocations de chômage, c'est un tremplin, c'est pas un coussin.
On continue de parler justement de chômage et d'emploi juste après une poignée de secondes avec Didier Gozouin, Ismaël Nuigno et Gilles Van Den Bure.
Place publique sur Arabelle.
Comment augmenter le taux d'emploi des Belges ? Ça vous fait réagir chez vous, mais ça fait aussi réagir l'ensemble des candidats présents en studio ce soir dans Place publique. Ismaël Nuigno, premier suppléant sur la liste Les Engagés à la Chambre. Quelles sont les propositions des engagés pour réactiver les chômeurs, mais aussi permettre à celles et ceux qui sortent des études d'accéder au marché du travail ?
Exactement, et là vous ciblez quelque chose qui est super important, et j'allais le dire, c'est qu'il faut bien cibler les personnes qu'on veut être capable de remettre à l'emploi. J'ai entendu tout à l'heure qu'on parlait à la fois des chômeurs et des malades de longue durée. Je pense que la priorité aujourd'hui, c'est d'abord d'essayer de remettre à l'emploi les personnes qui sont en situation de chômage, les malades de longue durée aussi, mais on n'est pas du tout dans la même situation et dans les mêmes outils pour y arriver. C'est-à-dire quelqu'un qui est aujourd'hui en burn-out, ce n'est pas du tout la même manière de le réactiver que quelqu'un qui doit être formé et être mis à l'emploi. Et comme vous l'avez dit, pour nous, il y a 2 catégories de la population prioritaires qu'il faut aider à remettre à l'emploi ou à mettre à l'emploi. Donc il y a les jeunes, parce qu'on sait qu'à Bruxelles, particulièrement, le taux de chômage pour les jeunes est très important, parce que malheureusement, soit c'est des formations qui demandent une maîtrise des langues, une formation qu'on ne maîtrise pas aujourd'hui, et donc il faut absolument mieux former les jeunes, mieux les accompagner pour trouver un emploi. Et nous, on veut absolument mettre l'accent sur une mesure qui est importante pour nous, c'est l'alternance. C'est le fait de faire en sorte qu'on passe plus de temps dans une entreprise à apprendre son travail de manière pratique que forcément derrière un bureau. Et donc ça, c'est une chose qui est importante pour nous, faire de l'excellence, une filière d'excellence. La deuxième partie de la population, c'est les personnes plus âgées qui ont plus de 55 ans. Et aujourd'hui, on remarque que leur taux d'emploi est beaucoup plus faible que les autres parce qu'en fait, les entreprises s'en séparent plus rapidement, que le gouvernement a augmenté l'âge de la pension légale, mais qu'il n'a pas mis en place de mesures pour aider ces personnes et les accompagner à rester à l'emploi jusqu'à ces hypothétiques 67 ans pour l'âge légal de la pension. Et donc, ce qu'il faut, par exemple, c'est de mettre en place la pension à temps partiel. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, le problème, c'est que soit vous êtes à la pension, soit vous n'y êtes pas. Et donc, pour quelqu'un qui a travaillé toute sa vie et qui voudrait arrêter petit à petit, prendre un mi-temps en pension, un mi-temps en travail, ce n'est pas possible. Et donc, on veut, par exemple, pouvoir mettre ça en place, ou encore mettre en place des systèmes de mentorat. Et là, je fais un lien entre les deux publics, que des personnes plus âgées qui ont une expérience puissent diminuer leur temps de travail effectif et prendre du temps, par exemple, pour aider des jeunes à se former et à s'insérer sur le marché du travail.
Quentin Libot, PS, vous souhaitez réagir à ce que vient de dire Ismaël Nuigno ?
Oui, pas parce que je suis en désaccord, mais pour rajouter quelque chose par rapport à ma première intervention et pour rajouter par rapport à la thématique de l'emploi des jeunes, parce qu'effectivement, c'est quelque chose qui est primordial, et Ismaël et moi, on est le plus jeune autour de la table, donc on est peut-être pas plus concernés que les autres, mais en tout cas, davantage concernés. Il faut savoir qu'à Bruxelles, les gens qui sont le plus éloignés du marché de l'emploi, c'est ceux qui manquent de formation. Et donc, il y a un vrai enjeu d'accessibilité à l'enseignement supérieur. Donc ça, c'est aussi pourquoi on se bat, contrairement à d'autres parties peut-être qui veulent exclure les gens de l'enseignement supérieur. Nous, on veut les inclure dans l'enseignement supérieur. Donc on doit augmenter le niveau de diplomation, on doit augmenter les formations. Et aussi un autre enjeu qui est aussi peut-être plus propre à Bruxelles et qui éloigne certaines personnes du marché de l'emploi, c'est la discrimination. La discrimination des personnes, c'est sûr que pour certaines personnes qui ont un nom à consonance étrangère, il y a plus de chances qu'on vous refuse un emploi et un emploi de qualité. Et donc là, il y a vraiment aussi des mesures à prendre contre la discrimination à l'embauche.
Didier Gozouin, des filles, à mon époque, on parlait des études. J'entends que ce soir, on parle de formation. Qu'est-ce qui a changé ?
D'abord, c'est un dossier que je connais. J'ai été ministre de l'Emploi pendant 5 ans et j'ai mis en place les nouvelles politiques de l'emploi après la 6e réforme de l'État. Et un constat, parce qu'il y a quand même des constats positifs, en 10 ans, en région bruxelloise, on est passé d'un taux d'emploi de 58,7% à 66,5%. Le communiqué de presse d'Actiris vient de sortir il y a 2 heures. Ça veut dire que pendant 10 ans, on a sérieusement à Bruxelles améliorer le taux d'emploi. On est au-dessus de la Wallonie. On est au-dessus de la Wallonie. J'en suis assez content, parce que c'est deux ministres défi qui ont mené ce travail. Effectivement, aujourd'hui, le véritable problème, c'est bien sûr de l'accompagnement, et on voit que ça fonctionne. Bien sûr qu'il faut de la formation, bien sûr qu'il faut de l'alternance. J'ai été ministre la fois précédente, mais votre ministre, Madame Chin, n'a pas pu faire aboutir le dossier au niveau de la FOIB, parce qu'il faut, au niveau de la fédération, un accord avec les régions pour que ça fonctionne. Et on n'a toujours pas le feu vert du côté de la fédération Wallonie-Bruxelles pour que, véritablement, on entre dans une dynamique, comme en Allemagne, comme en Suisse, comme en Suède, dans le processus d'alternance. Il est vrai aussi qu'il y a des réticences du côté du patronat de prendre des jeunes. Mais le véritable problème dans lequel on est, c'est pas de décréter on va arriver ceci à cela, c'est qu'il y a un gap terrible entre les demandeurs et les offreurs de travail. Terrible, pourquoi ? Et vous savez que en Fédération Wallonie-Bruxelles, il y a plus de 22% des jeunes qui sortent de l'obligation scolaire sans qualification. Sans qualification, alors que dans le marché global de l'emploi, on offre que 10% de l'emploi offert sont de type non qualifié. Ça veut dire qu'il y a un véritable problème. Chaque année, on produit des non qualifiés parce que nous ne sommes pas capables de donner une qualification et un enseignement suffisant à un nombre important de jeunes.
Ils ont été mal orientés ?
Non, parce que évidemment qu'il y a des failles dans l'enseignement. Enfin, écoutez, quand on a un taux d'échec aussi important, et ça ne date pas d'hier, j'ai écrit un bouquin en 2006 là-dessus pour le souligner, et ça n'évolue pas. Le décrochage scolaire, c'est prend des proportions considérables. Donc, on doit revoir les stratégies d'orientation et d'accompagnement le plus tôt possible pour que lorsque ces jeunes arrivent sur le marché du travail, ils ne soient pas en situation de devoir recommencer en réalité toute leur formation. Parce que quand un jeune a fait jusqu'à 18 ans, 19 ans, qu'est-ce qu'on lui dit ? Ah, tu devras retourner sur les bancs de l'école parce que tu es vraiment inapte sur le marché du travail. Et donc, cette espèce de blocage-là, on ne l'a pas résolu. Et ce ne seront pas les régions qui vont pouvoir le faire. Ce sont les régions, le fédéral aussi, parce qu'il a des instruments, notamment en termes d'activation. On a parlé de la réforme fiscale, mais aussi ceux qui pilotent l'enseignement. Enfin, je dirais que pour encourager et soigner dans les formations, il faudra revenir sur une mesure qui a été adoptée, il faut le dire, sous le gouvernement Di Rupo, c'est la dégressivité des allocations de chômage. Et donc j'estime que le jeune, ou la personne, pas jeune, mais qui est demandeur d'emploi, qui rentre dans un processus de formation, ne peut pas, et on sait que ça n'est pas en 2 mois, 3 mois qu'on forme quelqu'un, surtout avec le constat de non-qualification.
On ne peut pas diminuer ces allocations.
Non, il ne faut pas les diminuer. Il faut arrêter la dégressivité pour ceux qui font les efforts d'entrer dans des processus de formation. Donc il y a une série d'instruments, à la fois de meilleur accompagnement, d'incitation financière, de non-sanction, parce que le type qui, le jeune qui rentre dans un processus de formation, qui peut peut-être prendre 2 ans, 2 ans et demi, quoi, après 2 ans, on va lui dire, allez, t'as pas de travail, mais il n'est pas encore, comme il part de rien, on va lui supprimer ses allocations. Non, je crois qu'il faut ne pas travailler de manière dogmatique dans un problème, dans une problématique aussi complexe et qui, je dirais, met en scène l'ensemble des parlementaires, des institutions. Bref, je termine, ça doit être un objectif prioritaire de tous les gouvernements. Il faut que demain, il y ait un task force où régulièrement tous les gouvernements de ce pays travaillent. Où est-ce qu'on en est ? Qu'est-ce qui ne va pas ? Comment est-ce qu'on peut corriger ? Et pas en parler en début de législature et puis en reparler aux prochaines, au moment d'un débat électoral.
Audrey Henry Emmer réagit à ce que vous venez de dire, 20 secondes, et puis ensuite nous nous dirigerons vers Écolo.
Oui, écoutez, la première chose, c'est que effectivement, dans la mesure que nous proposons, c'est que déjà les plus de 55 ans, on a bien conscience qu'il y a beaucoup plus de mal à retrouver un emploi, donc ces personnes seraient exclues. Mais effectivement, tous les gens qui font des efforts, qui se forment, même les personnes qui acceptent des travaux d'intérêt généraux, ne seront pas exclues. Donc ce n'est pas du tout aussi dogmatique que je peux l'entendre.
Pas exclues, mais on va diminuer le montant de leurs allocations de chômage à travers le temps.
Mais c'est déjà le cas actuellement.
Ça, donc, ça a été voté.
Oui, c'est ça, c'est ça de, depuis le gouvernement du Roupeau. Hein. Donc voilà. L'autre point c'est, sur lequel je rejoindrai M. Gossoin, c'est qu'effectivement, je pense qu'il faut vraiment que tous les niveaux de pouvoir travaillent vraiment. Ça doit être une des priorités. Parce que, comme je l'ai dit, pour nous, la remise à l'emploi, c'est vraiment la meilleure des protections sociales. Et qu'effectivement, dans la lasagne institutionnelle belge, il y a certaines parties des politiques qui est au fédéral et l'autre qui est au régional, et donc on manque d'efficacité à ce niveau-là.
Mais donc cette fois-ci, on va y arriver, puisque visiblement, ça semble être une priorité de tous les partis.
Je l'espère.
Gilles Vandenbure, écolo, vous êtes deuxième sur la liste écolo à la Chambre. Quelles sont les propositions de votre parti pour permettre à plus de Belges de trouver un emploi ?
Mais c'est une question fondamentale, il y a beaucoup de propositions qui ont été faites. Pour nous, la clé, c'est effectivement la formation. C'est la formation et l'accompagnement. Et effectivement, moi, je ne m'inscris pas, les écologistes ne s'inscrivent pas dans une politique, effectivement, de punition. Moi, je ne vois pas comment on peut l'appeler autrement. C'est à partir du moment où on dit à des personnes, écoutez, après 2 ans, soit ça diminue encore plus, soit on arrête et on vous pousse vers les CPS. Moi, je suis actif aussi au niveau communal, dans ma commune d'Ixelles. Je sais comment fonctionne un CPS. Un CPS, aujourd'hui, n'est pas du tout outillé pour accompagner des personnes vers l'emploi. Ils ont d'autres tâches bien fondamentales dans notre société, mais pas celle-là. Donc, ça, je pense vraiment que ce sont des mesures qui sont totalement inefficaces et en plus je trouve qu'ils ne sont pas positives par rapport au fait de croire dans un potentiel de chaque personne. Donc la formation. Mais je voulais compléter par autre chose, c'est que pour nous c'est aussi des choix qu'on doit faire au niveau régional, en particulier d'investissement aussi dans l'économie. Je m'explique, comme écologiste, pour nous, il faut continuer à investir dans la transition climatique, dans la transition environnementale. C'est le choix d'ailleurs que Bruxelles a fait ces 5 dernières années avec la secrétaire d'État Barbara Tracht. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire pour nous, en priorité, investir dans l'isolation des bâtiments. Par exemple, les énergies renouvelables. Mais donc tous ces secteurs, en fait, dans lesquels je pense qu'il faut investir pour le climat, pour le portefeuille des citoyens, puisque si on isole les bâtiments, on diminue les factures énergétiques, mais on crée de l'emploi. Nous, on est en discussion permanente avec, par exemple, le secteur de la construction, qui se plaint, en fait, de ne pas avoir assez de main-d'œuvre, d'ailleurs, à Bruxelles, en Wallonie et en Flandre. Eh bien, là, typiquement, avec un plan d'investissement ciblé, réfléchi sur ces secteurs à fort potentiel, comme ceux en lien avec la lutte contre le dérèglement climatique, eh bien, ça fonctionne. Les énergies renouvelables, c'est la même chose. Les panneaux photovoltaïques à Bruxelles, il faut en placer, évidemment, de manière très importante. L'entreprise ou les entreprises qui s'occupent de ça à Bruxelles manquent de main d'œuvre aujourd'hui. Et donc je pense qu'il faut aussi avoir une réflexion au niveau d'Actiris, de Bruxelles Formation, pour davantage cibler les formations et les accompagnements. Je pense qu'on peut faire mieux qu'aujourd'hui, pour le dire très clairement, et notamment les secteurs que je viens de donner, il faudrait effectivement pouvoir cibler davantage pour, et en particulier les jeunes, hein, parce que si on parle de Bruxelles, on sait que c'est une population surtout jeune qui est demandeuse d'emploi. Il faut pouvoir cibler davantage. Je pense qu'aujourd'hui on ne le fait pas assez, et c'est vraiment là pour nous un axe fondamental de redéploiement à la fois économique, mais aussi d'ancrage local de l'emploi créé.
Et donc, pour former ces futurs professionnels, placeurs de panneaux photovoltaïques à Bruxelles, il faudra aussi soutenir les ménages à pouvoir accueillir des panneaux photovoltaïques.
Tout à fait. Et donc ça, c'est dans notre plan, comme je vous le disais, d'isolation, d'investissement. Parce qu'aujourd'hui, donc des primes existent. Hein, le programme Rénolution qui a été mis en place par Alain Marron. Mais en fait, c'est des primes après que vous-même ayez investi. Donc vous faites des travaux, vous recevez des primes. Ça marche très bien. Mais on sait très bien qu'il faut avoir l'argent à la base. Aujourd'hui, le plus grand des passoires énergétiques, le plus grand nombre de passoires énergétiques, souvent, sont des personnes en fait, qui sont fragilisées, qui sont à faible revenu, des locataires qui sont dedans, et donc qui n'ont pas cet argent pour avancer les travaux. Donc ce que nous, on propose, c'est que l'État, ici la région en l'occurrence, eh bien, avance l'argent via des prêts à taux zéro, par exemple, et que les personnes puissent bien rembourser via le gain, en fait, sur la facture énergétique. Donc, on est très conscient de ce problème, et d'ailleurs aussi de faire une rénovation quartier par quartier pour que l'État planifie aussi, en Wallonie d'ailleurs comme à Bruxelles, on propose pour les deux régions, avec le secteur de la construction, qu'on puisse, de manière un peu plus globale, notamment pour les permis, hein, ça facilitera toute une série de choses, isoler massivement nos bâtiments, notre bâti en Wallonie à Bruxelles.
Vous écoutez Place Publique, on s'intéresse ce soir aux élections fédérales qui se déroulent le 9 juin prochain. Je lis vos SMS au 0488 106 800. On se retrouve juste après une courte pause musicale. À tout de suite.
Jusqu'à 20h, Place Publique sur Arabelle.
Bienvenue si vous venez de nous rejoindre. En début d'émission, nous nous intéressions à votre pouvoir d'achat. On y revient. Les factures d'énergie ont augmenté depuis plusieurs années. Comment les réduire? C'est une des questions que je pose entre autres à Ismaël Nouino, premier suppléant sur la liste Les Engagés à la Chambre. Quelle est la proposition de votre parti pour réduire nos factures d'énergie?
Alors vous avez dressé le constat, les factures d'énergie elles augmentent, elles ont encore plus augmenté pendant la guerre, le début de la guerre en Ukraine, et cette augmentation vraiment on a vu des prix faire x10, parfois même x20, et c'est à la fois des foyers mais aussi des entreprises qui se sont retrouvées vraiment avec la corde au cou. J'ai deux éléments très concrets de proposition. Le premier c'est la question du prix de l'énergie de manière générale, c'est-à-dire qu'on doit garantir en tant qu'État un prix de l'énergie qui soit le plus stable possible, donc empêcher la spéculation sur le prix de l'énergie comme on a pu le voir pendant cette crise énergétique. Et donc ce qui est important pour nous, c'est d'avoir un mix énergétique stable. Le mix énergétique, ça veut dire être capable d'avoir et d'investir dans l'énergie renouvelable, comme on le fait en mer du Nord, d'installer des panneaux photovoltaïques, mais aussi d'avoir une partie d'énergie qui doit être générée par des centrales nucléaires. Parce que c'est l'énergie qui pollue le moins aujourd'hui, qui est la plus stable et qui nous permet d'avoir une prévisibilité sur la production. Elle est aujourd'hui nécessaire et utile, surtout quand on voit à quel point on va électrifier toutes nos habitudes. On passe à des voitures électriques, on a de plus en plus de domotique dans nos maisons, et donc on aura de plus en plus besoin d'électricité, et on doit avoir une offre qui est stable. Ça, c'est la première chose, c'est sur le prix de l'énergie en tant que tel. La deuxième chose, c'est, on a commencé à en parler tout à l'heure, c'est sur l'isolation des bâtiments. Parce que ce qui fait que vous payez cher, c'est en général que vous avez un bâtiment qui malheureusement est mal isolé, donc qui consomme plus. Et donc, il y avait une très grande injustice dans cette crise, c'est que ceux qui avaient le plus de moyens avaient isolé leur bâtiment, mis des panneaux photovoltaïques, et donc n'ont pas trop subi la crise énergétique. Donc ce qu'on propose, on a un plan très concret chez Les Engagés, c'est ce qu'on appelle l'isolation sans frais. Alors on est en campagne, donc ça peut paraître être un cadeau, mais ce n'est pas du tout le cas. Ce qu'on veut, c'est faire en sorte, et c'est un petit peu comme ce qu'a pu expliquer tout à l'heure Gilles Décolo, on veut faire en sorte que ce soit un tiers investisseur, et donc c'est là que se trouve la différence entre nous, c'est que chez Écolo, c'est le public qui va investir, nous on veut que ce soit un tiers investisseur, donc un privé, qui investisse dans la rénovation de votre bâtiment, aussi avec une planification de l'État, aussi avec une manière de faire en sorte que ce ne soit pas vous qui deviez gérer les travaux. Mais on pense aujourd'hui que ça ne peut pas être le public qui gère ça parce que ses finances sont tellement mauvaises qu'aujourd'hui, on sait que la région bruxelloise est en faillite virtuelle et donc on ne peut pas lui demander ça en plus. Donc ce qu'on veut, c'est qu'un investisseur privé décide d'investir dans la rénovation de votre bâtiment. C'est l'État qui se charge de la planification de cette rénovation et l'investisseur privé va se rembourser sur les économies d'énergie que vous allez faire. Ça fait zéro frais parce que vous ne payez pas la rénovation, ça fait zéro tracas parce que ce n'est pas vous qui vous chargez de l'organisation, et ça fait zéro émission, et ça c'est bon pour votre portefeuille et pour la planète.
Gilles Vandenburg, Écolo, c'est avec le nucléaire qu'on va réduire le prix de nos factures d'énergie?
Et donc, ma première priorité, et là je rejoins ce qui vient d'être dit, c'est effectivement d'abord isoler le bâti, et ça c'est la meilleure politique. Non seulement c'est bon pour l'environnement, mais c'est aussi une politique sociale. Par rapport au mix énergétique, on peut avoir des différences d'appréciation. Nous, notre objectif, il est clair, c'est à l'horizon 2050, avoir en fait une neutralité carbone. Ça, c'est en fait les accords de Paris. La Belgique s'est engagée dans ces accords de Paris. Et nous estimons qu'à cette échéance-là, il faut être 100% énergie renouvelable. Ça, c'est notre horizon. D'ici là...
Voilà qui est dit, et concrètement pour l'auditeur...
Ouais.
Pour réduire sa facture d'énergie?
Oui, mais donc ce que je veux dire par là, c'est que par rapport à ce qui a été dit sur le nucléaire, moi je ne pense pas qu'investir en plus maintenant des milliards dans le nucléaire en partant donc de nouvelles centrales nucléaires, hein, c'est bien ça que j'entends dans ce qui est proposé, c'est pas ça qui va faire baisser la facture énergétique de nos concitoyens. Je pense que c'est d'abord l'isolation, investir dans les énergies renouvelables, comme je le disais, et surtout renforcer des systèmes comme celui que nous avons mis en place durant la crise de l'énergie avec la ministre fédérale Tine van der Straat, donc écologiste, c'est le tarif social de l'énergie. Donc ça a été mis en place, ça a permis à toutes les familles en difficulté, hein, les statuts BIM, donc c'est 2 millions de personnes au niveau belge qui ont pu profiter de ce tarif qui était en fait protégé. Donc vous avez un tarif protégé quand les prix augmentent très fort comme c'était le cas de manière irrationnelle, et donc nous avons mis en place une mesure de protection sociale quand les prix de l'énergie explosent. Je pense qu'il faut renforcer ce type de mécanisme pour protéger évidemment les personnes qui sont le plus en difficulté et qui sont même dans la classe moyenne, puisqu'on parle de 2 millions de personnes au niveau de la Belgique.
Les autres Belges peuvent payer plus cher leurs factures alors?
Non, mais donc c'est un panel évidemment de solutions. Comme je le disais, le tarif social c'est pour 2 millions de personnes, donc c'est quand même déjà très conséquent. Et pour le reste, c'est intensifier les efforts en termes d'isolation du bâtiment et de permettre aux gens, et j'entends que ça peut être par l'État, moi si c'est des partenaires publics-privés, honnêtement là-dedans on peut vivre avec aussi, mais ça c'est la priorité et je pense que c'est ça qui va faire en sorte, l'énergie qu'on ne dépense pas forcément, on ne va pas devoir la payer, il faut vraiment entrer dans une logique beaucoup plus forte à ce niveau-là.
Quentin Libotte, PS, quelles sont les propositions de votre parti pour diminuer le prix de nos factures d'énergie?
Déjà, je tiens à dire que dans les pays européens, la Belgique est un des pays européens qui a le mieux protégé les citoyennes et les citoyens face à la crise énergétique. On a pris des mesures concrètes et Gilles Décolo vient d'en parler, avec notamment aussi, donc vous avez parlé de la ministre Van Ostraten, avec la ministre Karine Dalliot aussi, qui est ministre fédérale en charge de la lutte contre la pauvreté. On a pris des mesures très concrètes pour élargir le tarif social énergie à davantage de ménages. On a réduit le tarif, la TVA sur l'électricité de 21 à 6%. C'est une mesure qu'on veut garder pour être pérenne, donc ça aussi du concret, donc quelque chose qu'on veut garder et qui est dans le programme pour le maintenir à l'avenir. On a aussi des chèques mazout pour le propane, enfin pour le mazout et le propane. Ouais, donc tout ça, c'est ce qu'on a fait concrètement pendant la crise Covid pour aider les citoyennes et les citoyens. Les prix d'énergie ont explosé, donc ces mesures sont les bienvenues, elles sont nécessaires. Est-ce qu'elles sont suffisantes? Peut-être pas. Et donc, bon, maintenant, les prix commencent légèrement à descendre et c'est fort heureux. Mais on voit qu'on est totalement dépendant. Si une nouvelle crise énergétique venait à apparaître, on devrait reprendre peut-être de ces mesures-là. Et donc, effectivement, je rejoins ce qui a été dit tout à l'heure. On doit avoir des prix de l'énergie qui sont stabilisés. Au niveau belge tout seul, on ne peut pas y arriver. Donc, il faut faire ça aussi dans le cadre de l'Union européenne, avec des règles plus strictes pour encadrer. Aussi, forcément, si vous ne consommez pas l'énergie, c'est l'énergie qui ne vous coûte pas. Et donc là, l'isolation des bâtiments est, je rejoins ce qui a été dit par mes collègues, une priorité absolue, que ce soit totalement public, soit public-privé. On peut regarder ce qui est le plus efficace. En tout cas, c'est sûr que les gens tout seuls n'ont pas les moyens d'investir pour isoler leurs bâtiments. Et donc, si on veut qu'ils puissent faire face aux crises énergétiques futures, qu'on souhaite éviter, évidemment, mais dans le cas d'une future crise énergétique, il faut isoler, isoler, isoler.
Audrey Henry et maire, vous êtes d'accord avec ce qu'on entend? On garde la TVA sur l'énergie à 6%, le maire est d'accord?
Écoutez, oui, effectivement, le MR l'a accepté pendant ce gouvernement-ci, puisque j'entends qu'effectivement, chacun cite son ministre autour de la table du gouvernement. Bien, effectivement, David Clarinval a également accepté cette diminution, que ce soit le tarif social, la diminution de la TVA. Il y a également des mesures qui ont été prises pour aider les entreprises à passer cette crise. Ça, c'est pour effectivement le bilan, je dirais, du gouvernement. Maintenant, on parlait également de mix énergétique, et là, c'est vrai que on se rejoint plus ou moins, enfin même plus que plus ou moins, avec les engagés sur le fait que le nucléaire doit effectivement jouer un rôle très important dans un mix énergétique. Pourquoi ? Parce que la moitié de la facture, du prix de la facture actuellement, ce sont quand même des taxes, et des taxes de voirie. Enfin, je ne vais pas rentrer dans les détails. Donc, effectivement, on peut diminuer les cotisations fédérales. On peut aussi malheureusement diminuer les contributions aux énergies vertes, parce qu'il faut quand même savoir qu'actuellement, tout ce qui est énergie renouvelable est subsidié, alors que tout ce qui est énergie nucléaire est taxé et rapporte donc aussi de l'argent. Donc pour avoir un mix énergétique abordable, je pense que le nucléaire a effectivement tout à fait sa place, parce que comme on l'a dit, ça permet une des sources d'énergie en suffisance, de manière indépendante pour la Belgique, et qui est effectivement neutre en CO2, puisque au tout début de ce gouvernement, effectivement, on envisageait la construction de nouvelles centrales au gaz, qui ne me semble pas du tout correspondre aux objectifs auxquels la Belgique s'est engagée. Et je rejoins, je terminerai par là, également, je pense que tout le monde est d'accord sur l'isolation effectivement des bâtiments, les différents moyens d'y parvenir. Je pense que nous, effectivement, on est plus dans un partenariat public-privé, une diminution de la TVA également pour tous les travaux qui améliorent le PEB.
Dans une poignée de secondes, c'est Didier Gozouin qui s'exprime sur la question.
Heures, place publique sur Arabelle.
Didier Gozouin, vous êtes 9e suppléant sur la liste Défi à la Chambre. Nos factures d'énergie sont assez élevées. Comment est-ce qu'on les réduit ?
Alors, je ne vais pas reprendre les propositions. Je pense que tout le monde partage qu'il faut mieux isoler les bâtiments et qu'il faut mettre en œuvre de mécanismes de tir payant qui existent d'ailleurs depuis à peu près 20 ans. Donc, tout le monde est tout à fait d'accord sur cela. Moi, je constate qu'il y a peu de temps, la GREC, qui est quand même l'organisme officiel en Belgique, a révélé qu'il y avait plus d'1 900 000 ménages qui payaient trop cher leur électricité et leur énergie. Et que ça faisait des centaines d'euros euros par an pour ces ménages. C'est qu'il y a un problème en termes de transparence, de compréhension. Donc une des premières choses, c'est donner à chacun les moyens de comprendre sa facture et d'aller et aussi de surveiller et de contrôler, voire de sanctionner les fournisseurs d'énergie qui abusent de situations par mauvaise connaissance. Donc là, il y a un effort à faire pour mieux cornaquer les fournisseurs d'énergie. Là où je suis très en colère, et j'entends que mes collègues ici on parle du tarif social. Ah oui, le tarif social a été mis en œuvre, sauf, et je regarde ici dans ce studio, tous les immeubles à logements multiples, sauf pour les logements multiples, c'est-à-dire là où il y a des chaudières collectives. Le gouvernement n'a pas su aboutir, et c'était d'ailleurs dans les mains d'une ministre Groen, hein, et n'a pas su aboutir. Ça veut dire que ceux qui sont dans ces immeubles-là, qui sont souvent les grandes passoires thermiques parce qu'elles ont été construites dans les années 60-70, eh bien, ces familles-là ne peuvent pas bénéficier encore du tarif social parce que, tout simplement, la disposition légale n'a pas été votée. Enfin, ce n'est pas vrai. Elle n'est pas d'application. J'ai suivi ce dossier. Elle n'est pas d'application.
Je l'ai voté au Parlement fédéral. Donc
mais je vous dis qu'elle n'est pas d'application. N'est pas d'application.
Ça a changé au début, pas, et puis ça évolue.
Elle n'est pas.
On vérifier.
Je suis ce dossier. Ben, vous pourrez vérifier ultérieurement qui a raison ou tort et demander si les gens qui sont dans des logements multiples, les logements multiples bénéficient du tarif social.
Ça a évolué. Ça a évolué.
Alors. Ce qu'il y a aussi, c'est qu'on a encouragé tout le monde à faire des panneaux et à produire de l'électricité. Et puis on a changé les donnes, on l'a vu en Wallonie, ce qui se passe, hein, c'est quand même une certaine cacophonie, et notamment l'impossibilité, parce qu'il y a eu trop de demandes, le réseau n'est plus en capacité de pouvoir recueillir l'excès de consommation. Or, c'était un avantage intéressant dans le chef de ceux qui avaient des panneaux. Dit, ben, moi, je fais attention de ne pas trop consommer. Aujourd'hui, ben, quand on a des panneaux, on a intérêt à consommer parce que sinon, c'est perdu.
Et pour celles et ceux qui n'ont pas de panneaux.
S'il vous plaît ?
Pour celles et ceux qui
n'ont pas de panneaux. Alors, ceux qui n'ont pas de panneaux, je voudrais aussi quand même attirer l'attention sur une particularité à Bruxelles. C'est que dans la grande majorité des gens, à la différence de la Wallonie et la Flandre, ce sont des locataires. Ce sont des locataires et ils n'ont pas la maîtrise de leurs biens immobiliers aussi facilement. Ils n'ont pas fait des investissements. Un locataire ne va pas commencer à faire des investissements. Donc, il y a des stratégies différentes à avoir en fonction de la structure propriétaire et locataire. Autant vous avez 60% de propriétaires en Wallonie, en Flandre, autant c'est un rapport tout à fait inverse. Et c'est souvent dans des logements qui sont en plus mauvais état, donc les passoires thermiques, avec parfois des propriétaires qui n'ont pas toujours eu un intérêt ou une attention à faire les rénovations. Donc voilà. Mon souhait, c'est que le prochain gouvernement, et je mets au défi, le prochain gouvernement rétablisse pour tout le monde le tarif social, quel que soit le type d'habitat, chaudière individuelle ou chaudière collective,
voilà.
Qu'on puisse remettre aussi sur le réseau l'excès de consommation et qu'on n'oblige pas les gens à ne plus utiliser le tarif de nuit, mais qu'on l'utilise pour pouvoir consommer.
Obligation du tarif social pour tout le monde, pour l'énergie, voilà qui est dit. Didier Gozoin, défi. On se retrouve dans un instant pour la dernière partie de Place Publique consacrée ce soir aux élections fédérales. Ce sera juste après Gims et Maluma. Ça sent bon l'été, Gims et Maluma, si te llamo.
Jusqu'à 20h, Place Publique sur Arabelle.
Le débat de ce soir est consacré aux élections fédérales, puisque dans 11 jours, nous votons. Ce sera le 11 juin. Cela ne vous aura pas échappé à Bruxelles, mais aussi ailleurs. Si vous nous écoutez ailleurs, il y a des sans-abri dans les rues, il y a des sans-abri dans les stations de métro. Il y a aussi de nombreuses familles monoparentales, des familles aussi avec deux parents et des enfants et des célibataires qui ont du mal à boucler les fins de mois. C'est ce qu'on appelle la pauvreté. Comment lutter contre la pauvreté et le sans-abrisme? Quentin Libot, vous êtes 7e suppléant sur la liste PS à la Chambre.
Alors, pour moi, ce qui est important, c'est de lutter contre la pauvreté du berceau à la maison de repos. Donc, ça doit être transversal sur toute la vie des gens, notamment au berceau, donc à la naissance, pour avoir l'accès le plus simple possible aux soins de santé pré-naissance, post-naissance. Élargir le congé de paternité, on l'a fait, il faut le maintenir. Après, ça passe par l'accessibilité à des places en crèche. Il y a vraiment un manque là-dessus. Donc, il faut que les places en crèche soient accessibles, qu'elles soient aussi de qualité. Ensuite, on arrive sur l'enseignement obligatoire. Nous, ce qu'on propose, c'est un repas gratuit, chaud, de qualité, dans les écoles pour le maternel. Parce que les enfants qui vivent la pauvreté n'ont pas toujours un repas chaud. Et donc, ça doit au moins pouvoir se faire à l'école. Après, si vous continuez dans le parcours de vie, vous arrivez aux études supérieures, ou pas, en tout cas pour celles et ceux qui choisissent d'aller en enseignement supérieur, il faut que cet enseignement supérieur soit le plus accessible possible et accompagne un maximum d'étudiants pour arriver à la diplomation. On en a parlé tout à l'heure, c'est aussi un enjeu d'emploi par le futur et d'accessibilité aussi à ce qu'on appelle l'ascenseur social, où quand vous avez un diplôme, vous avez moins de chances de vous retrouver dans des situations de pauvreté. On arrive ensuite sur les... Alors, vous avez un enfant, voilà, donc il y a la précarité infantile, il n'y a pas d'enfants pauvres, il y a des parents pauvres. Et donc, il faut aider les parents, les jeunes parents ou pas, pour avoir des logements accessibles, des logements de qualité. En fait, c'est toutes des politiques transversales qui doivent être faites. Et voilà, je vois que le temps devient limité. Donc, j'arrive aux aînés. Il faut que les maisons de repos, pareil, on a vu ce qui s'est passé dans les scandales des maisons de repos. Je ne donnerai pas le nom, mais vous payez très très cher pour une maison de repos où vous faites maltraiter. Ça, c'est pas possible. Donc, il faut que toutes les maisons de repos soient de qualité et accessibles.
J'ai bien compris, on ne devrait jamais être pauvre ou se sentir pauvre.
Exactement.
Ismaël Nouino, premier suppléant sur la liste Les Engagés à la Chambre.
Alors, il y a une première chose sur la question de la précarité et de la pauvreté, c'est qu'aujourd'hui, ces dernières années, est apparu le concept de travailleur pauvre. Et donc ça, pour nous, chez Les Engagés, il est inconcevable de se dire que des gens qui se lèvent tous les matins pour aller travailler soient toujours pauvres. C'est toujours inconcevable pour les autres aussi, mais là particulièrement, ça passera par la fiscalité, comme on a pu en parler, mais c'est une priorité absolue. Sur le sans-abrisme, il faut savoir qu'à Bruxelles, on a 3000 hommes seuls qui dorment dans la rue alors qu'ils sont demandeurs d'asile. Et donc que l'État a l'obligation normalement de leur donner un logement et de les accueillir le temps de la procédure. Et donc là, c'est vraiment une faillite de l'État fédéral qui ne respecte pas ses obligations internationales, qui a été condamné 10 000 fois et qui a décidé de dire les demandeurs d'asile seuls, on les laisse dans la rue. Et donc là, c'est une priorité. Deuxième chose, pour les sans-abri, on va dire, qui ne sont pas demandeurs d'asile, il faut absolument axer la politique sur le logement, donc le housing first, le fait de leur donner un logement et puis de les aider à sortir de tout un tas d'autres situations. Dernière chose sur les familles monoparentales, parce qu'aujourd'hui, ça touche 63 000 familles à Bruxelles. C'est énorme quand même. Et c'est 87% de femmes. Donc on voit ici aussi qu'on est dans une situation très inégalitaire et c'est des personnes qui sont très majoritairement à risque de se retrouver dans la précarité. Simplement, vous devez payer un loyer seul, ben en fait, ça vous coûte deux fois plus cher que si vous étiez à deux. Et donc, c'est un vrai problème. Chez Les Engagés, c'est une de nos priorités, les familles monoparentales. On veut créer un statut, famille monoparentale comme les familles nombreuses, et que ces familles monoparentales soient prioritaires pour les accès aux logements sociaux.
Gilles Vandenburg, deuxième sur la liste Écolo à la Chambre. Comment est-ce qu'on lutte contre la pauvreté et le sans-abrisme chez Écolo?
Mais donc, je rebondis sur ce qui a été dit par Ismaël désengagé, parce qu'il y a des choses qu'on partage sur ce, parce que sur les sans-abris, le sans-abri à Bruxelles, c'est vraiment une préoccupation majeure pour nous, mais il y a deux types effectivement. Il y a les personnes qui sont sans papier, et nous sommes effectivement, nous clairement, nous le disons pendant cette campagne électorale, nous sommes pour une régularisation de toute une série de personnes qui sont déjà en Belgique, qui travaillent parfois dans des conditions inacceptables pour quelques euros de l'heure, sans sécurité sociale, sans rien, dans toute une série de secteurs. Nous sommes pour réguler ces personnes-là, pour régulariser, pardon, ces personnes-là, en lien avec les métiers en pénurie, hein, et en lien avec les secteurs d'activité. C'est une demande des régions, d'ailleurs, et c'est fait, effectivement, ça coince au niveau fédéral. Moi, j'assume clairement de dire ça, et nous nous sommes battus au sein du gouvernement fédéral, et malheureusement, très peu d'autres partis ont soutenu ce type de proposition. Donc ça, c'est pour effectivement régulariser les personnes sans titre de séjour. Et effectivement, après, il y a le sans-abrisme des personnes qui ont des titres de séjour. Et là, il faut continuer la politique housing first. Donc Alain Marron, le ministre en charge en région bruxelloise, a doublé le nombre de sans-abri qui ont accédé à ces projets housing first. Il faut évidemment continuer ces efforts. Et sur les familles monoparentales, un dernier mot. Moi, je rejoins ce qui a été dit. Et je rajoute l'accès aussi facilité au mécanisme du SECAL, qui est une possibilité, effectivement, surtout pour les mamans et les femmes, parce qu'on sait très bien que ça touche surtout les familles monoparentales, mais d'avoir en fait une aide financière supplémentaire. Ça dépend du fédéral, et donc il faut aussi pouvoir élargir cela.
Audrey Henry, deuxième suppléante sur la liste MR à la Chambre.
Oui, alors plusieurs choses sur effectivement les familles monoparentales. Ben, on en avait parlé au début. Je pense qu'effectivement un meilleur salaire, ça évite effectivement aussi de tomber dans la précarité. Une meilleure formation pour les parents solos, puisque ça donne une meilleure formation, c'est une meilleure rémunération aussi. Sur la problématique des femmes, l'augmentation par exemple de l'allocation maternité, ça a été pris pendant cette législature-ci pour les femmes indépendantes, parce que là, il y avait effectivement un vrai problème pour cette catégorie-là. On en a parlé, c'est l'augmentation des places en crèche, avec pour nous aussi une priorité pour les places en crèche, pour les gens qui travaillent. Au niveau des seniors, il y a effectivement un accompagnement à avoir au niveau d'une meilleure fiscalité pour aussi aider ces seniors à rester chez eux, mais également garantir un meilleur accès pour des places en maison de repos. Et alors sur le sans-abrisme, je pense que là je rejoindrai ce qui a été dit, c'est-à-dire qu'on est effectivement pour une augmentation du moyen des programmes Housing First, pour quand même expliquer en deux mots ce que c'est. Donc c'est effectivement la réinsertion des sans-abri par le logement d'abord, qui se complète par un accompagnement psycho-social et médical.
Didier Gozouin, vous êtes 9e suppléant sur la liste des filles à la Chambre. Comment est-ce qu'on sort celles et ceux qui sont dans la rue pour les remettre dans une vie la plus digne possible?
D'abord, accepter que cette problématique ne relève pas d'une compétence régionale. Les villes attirent la pauvreté. C'est un phénomène que l'on voit partout. C'est un problème qui doit donc être pris en charge par le fédéral. Vous devez savoir que les communes les plus pauvres à Bruxelles, c'est généralement celles qui ont le plus de problèmes sociaux et de gens qui sont sans abri. Alors, non seulement... Et une grande partie de l'aide sociale, de l'aide est portée par des CPS, c'est-à-dire par des communes. J'estime, moi, que la lutte contre la pauvreté doit être un enjeu fédéral. Un enjeu fédéral, et puisque ma collègue du MR veut mettre un bouclier fiscal pour les plus riches, moi je pense qu'il faut réfléchir demain à la notion de bouclier social. Il n'est pas possible que des gens, qu'elles soient des familles nombreuses ou des familles monoparentales, soient dans des situations, je dirais, de dénuement. Il y a un minimum de dignité. Mais ça passera par une réforme, et on revient au début de l'interview, une réforme de la fiscalité et des mécanismes de solidarité.
C'était Place Publique, une émission à retrouver sur rarabelle.fm et sur les plateformes habituelles. Merci d'avoir été avec nous. Merci à tous mes invités. Rendez-vous mercredi prochain à 19h pour la dernière de Place Publique. Je vous souhaite une excellente fin de semaine.